Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Avec Ophi Asset Management, leader en gestion ISR. Ophi Asset Management et votre épargne prend soin de vous.
Bon réveil et bonne journée à la une de l'économie ce matin. L'heure de vérité pour la réforme de l'assurance chômage. Elisabeth Borne reçoit ce matin les partenaires sociaux. Elle va leur présenter les arbitrages concernant les futures règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Syndicats et patronats ne s'attendent guère à une bonne surprise. Depuis le départ, le gouvernement est inébranlable dans sa volonté de durcir les paramètres d'accès à l'allocation chômage. Malgré déjà 3 reports de son entrée en application, la réforme prévoit donc 4 grandes mesures. Émilie Vallès.
Il y a évidemment quelques économies à réaliser derrière cette réforme, mais pour le gouvernement, c'est aussi un marqueur politique, signe qu'il poursuit les réformes et qu'il valorise le travail. Mais l'exécutif doit aussi tenir compte des ravages de la crise. Le marché de l'emploi s'est fortement dégradé. Alors 2 mesures devraient être mises pour l'instant de côté, celles qui visaient à durcir les conditions d'entrée dans l'assurance chômage. Cela aurait pénalisé les jeunes, notamment pas pertinent dans le contexte, ou encore la dégressivité des allocations pour les salaires élevés. Ces règles pourraient s'appliquer quand cela ira mieux. En revanche, 2 mesures devraient voir le jour cet été. Le système de bonus-malus pour les entreprises. Là, l'idée, c'est de limiter le recours excessif aux contrats courts. Le gouvernement y voit une arme contre la précarité. Autre changement à venir, celui du mode de calcul des allocations. C'est assez technique, mais actuellement, dans certains cas, cumuler un emploi à mi-temps avec du chômage permet de toucher plus que si l'on travaille à temps plein. L'exécutif entend corriger cela dans un souci d'équité.
Voilà, selon l'UNEDIC, justement, en effet, 4 chômeurs sur 10, 840 000 personnes auront, avec la réforme, une indemnisation en moyenne 20% inférieure à ce qu'elles touchent actuellement. Alors cela va-t-il motiver, justement, les demandeurs d'emploi à retrouver plus vite un job, comme le croit le gouvernement? Pour Marie-Lise Léon, numéro 2 de la CFDT, c'est faire fi de la crise économique en cours.
Les plus précaires seront ceux qui paieront le plus lourd tribut. Ça va se traduire par des baisses d'allocations, notamment ceux qui enchaînent les contrats courts et qui ont des allocations de moins de 1 000 euros. Ce sont au moins plus de 800 000 personnes qui vont être concernées, notamment par une baisse d'allocation. Et donc, c'est considéré que toutes ces personnes, en baissant leurs allocations, elles trouveront plus rapidement un emploi. C'est une forme de culpabilisation, en fait, des demandeurs d'emploi qui, pour certains, ou une grande partie d'entre eux, seraient soupçonnés de le faire par choix.
Voilà, la numéro 2 de la CFDT, Marie-Lise Léon. Dernier mot sur la réforme. Selon l'UNEDIC, si elle était entrée en vigueur au 1er avril, elle aurait permis 1 milliard d'euros d'économies cette année, alors que le déficit du régime, lui, devrait atteindre 10 milliards fin 2021 pour une dette cumulée de l'UNEDIC fin 2022 de plus de 70 milliards d'euros. Le dispositif des prêts participatifs arrive dans la dernière ligne droite. Bruno Le Maire a annoncé hier sa présentation jeudi en présence des représentants des banques qui seront chargés de le mettre en œuvre. Alors petit bémol tout de même, la Commission européenne a jugé utile hier de préciser qu'elle n'avait pas encore donné totalement son accord, mais le feu vert serait imminent. Bruno Le Maire espérait un lancement des prêts participatifs fin janvier. Concrètement, une entreprise pourrait emprunter l'équivalent de 8 à 13% de son chiffre d'affaires avec un taux compris entre 4 et 5%. Les assureurs qui sont chargés de financer ces prêts demandent tout de même des précisions sur la manière dont sera évalué le risque. La collecte de l'assurance vie retrouve, elle, des couleurs en janvier. 2 milliards nets engrangés, selon la Fédération française de l'assurance. Deuxième mois dans le vert pour l'assurance vie après 550 millions de collectes nettes en décembre. L'an dernier, les Français avaient largement boudé, ce qui reste quand même leur placement préféré. 6,5 milliards d'euros de décollecte cumulée sur les 12 derniers mois. L'actualité des entreprises à présent chez Danone, c'était attendu. Le conseil d'administration a désavoué hier soir son PDG, Emmanuel Faber. Bonjour Éric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Voilà Emmanuel Faber, le patron atypique, a sauvé sa tête, mais il va perdre la direction générale du groupe sous la pression de 2 fonds activistes qui menaient la fronde depuis des mois.
Voilà, ces 2 fonds anglo-saxons se trouvaient en tant qu'actionnaires maltraités. Depuis décembre 2017, la performance boursière de Danone est nettement inférieure à celle de ses concurrents. Sur 3 ans, l'action affiche un recul de 12,5%, alors que celle d'Unilever a progressé de 3% sur la période, et celle de Nestlé de 28%, en raison, il est vrai, de l'envolée des ventes de nutrition animale, du fait de la multiplication des adoptions d'animaux de compagnie pendant le confinement. Ce constat boursier bien terne aurait pu provoquer l'éviction d'Emmanuel Faber, Faber. Cela n'a pas été le cas, en tout cas pas entièrement. Emmanuel Faber, soutenu par quelques administrateurs et les syndicats, conserve la présidence du groupe Danone. En revanche, le conseil d'administration va lui trouver un remplaçant pour la fonction de directeur général. Son successeur sera chargé de mettre en place une stratégie opérationnelle davantage créatrice de valeur pour les actionnaires. Cela devrait passer par la cession de quelques actifs et une plus grande autonomie de gestion accordée aux filiales étrangères. Désormais, la rémunération d'Emmanuel Faber sera liée à la performance boursière du groupe, histoire de lui rappeler que ses considérations de long terme sur l'environnement et le social, aussi légitimes soient-elles, ne doivent pas prendre le pas sur l'intérêt à court terme des actionnaires.
Merci Eric. Pression d'activistes également chez ExxonMobil, jugé insuffisamment ambitieux face au changement climatique. Le géant américain du pétrole élargit son conseil d'administration à deux nouveaux membres, dont l'un est un spécialiste des investissements ESG, critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. En bref, une bulle est-elle en train de se former sur les marchés financiers? C'est la question que se pose la BRI, la Banque des règlements internationaux. Multiplication des introductions en bourse, plus de 400 à Wall Street l'an dernier, levée de fonds record de sociétés jugées peu rentables, spéculation aussi de particuliers qui empruntent pour investir en bourse. La Banque centrale des banques centrales retrouve dans l'ascension récente des grands indices boursiers, surtout américains, certains excès de la bulle Internet à la fin des années 90. La Commission européenne, elle, lance une enquête préliminaire sur les pratiques des compagnies aériennes en cas d'annulation de vol l'an dernier. De nombreux voyageurs ont en effet rencontré des difficultés pour se faire rembourser. Les compagnies préférant, pour protéger leur trésorerie, proposer des avoirs. La Commission ne précise pas quelles compagnies sont visées, mais il y en aurait 16, dont Air France, KLM, EasyJet ou encore Ryanair. Enfin, dans le secteur automobile, la Toyota Yaris, élue hier voiture européenne de l'année 2021 par un panel de 59 journalistes. La Yaris première génération avait déjà été couronnée en 2000. La quatrième génération lancée cet automne est récompensée pour sa contribution à la démocratisation de l'hybride. Les marchés, pour finir, le CAC en forte hausse hier soir, plus 1,57%, 5792 points. Le marché parisien rassuré par la détente des taux souverains. Le 10 ans français a reflué à moins 0,1%. Le 10 ans américain, lui, est stable à 1,43. Les investisseurs saluent par ailleurs le rebond de l'activité industrielle le mois dernier en zone euro, à un pic de 3 ans, 57,9 selon Markit. Les valeurs du jour, citons Stellantis, plus 3,52%, Danone, plus 1,38%. On suivra d'ailleurs la réaction des marchés ce matin concernant la décision de retirer la direction générale à Emmanuel Faber. À Wall Street, le Dow Jones, plus 1,95%, le Nasdaq, plus 3%. Meilleure séance pour l'indice tech américain depuis le 5 juin dernier. Signe de l'optimisme ambiant, même les compagnies aériennes sont en hausse. American Airlines, plus 1,20, Boeing, plus 5,84. Enfin, Zoom, le spécialiste de la visioconférence, plus 10% hier soir. Zoom, grand vainqueur de la pandémie, voit ses revenus continuer à croître de l'ordre.